Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Foot International en cette fin d'après-midi pour évoquer une fois encore la Ligue des Champions. Et les débuts de cette cinquième journée avec des Parisiens tête basse après leur défaite à Munich face au Bayern. Une troisième défaite en cinq soirées qui hypothèque leur futur en Ligue des Champions. La faute revient-elle aux joueurs inexpérimentés ou à leur entraîneur et à l'encadrement? Peuvent-ils encore y croire en huitième de finale, au huitième de finale en occupant la 26e place? Les Citizens se sabordent sur leur pelouse, rattrapés par le Feyenoord. Incroyable retournement. La fragilité est-elle dans les têtes des joueurs, de l'entraîneur, de Pep Guardiola ou alors de tous? L'Inter Milan aux commandes, donc, en attendant le match au sommet de la soirée, ce Liverpool-Real Madrid. Discret mais efficace, les Milanais. Plus efficaces encore, les Colchoneros, les Gunners ou bien la DEA avec des scores fleuves. En Afrique, c'était la première journée de la Ligue des Champions et des résultats notables pour le Maniema de la RDC, Maniema, et puis très symbolique pour le stade d'Abidjan. Et nous en parlerons avec nos invités, notamment tous ceux autour de cette table qui ont un feeling africain. Bonjour Yoro Mangara.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors vous, c'est pas la peine de le dire. Nabil Cheïton Blu, bonjour Nabil.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Nos spécialistes du foot africain. Et puis Hervé Penaud.
Bonjour à vous.
Vous avez intégré
quel plaisir
le groupe.
D'abord, quel plaisir d'être en votre compagnie. Puis qu'on parle un peu de foot africain, ça va faire du bien.
N'est-ce
cette
pas
Ligue des Champions sera intéressante cette année en Afrique. Comme d'habitude d'ailleurs, pourquoi je dis ça.
Pierre Guérin nous a aidé à préparer cette émission et Laurent Salerno est à la réalisation Radio Foot. C'est parti.
Il y a du monde, il y a danger. Oh, Safona, ce ballon qui revient sur la tête de Kim. Le Paris Saint-Germain vacille. 1-0 pour le Bayern.
Ah, c'est fini, c'est, fini,
c'est terminé. Victoire du Bayern, 1-0 face au Paris Saint-Germain. Le PSG qui ne s'en sort pas. Toujours dans l'impasse en Ligue des Champions. Une troisième défaite en cinq journées. Paris va devoir maintenant s'activer.
Il leur fallait gagner. Les Parisiens ont perdu en s'inclinant donc sur cette pelouse de l'Arena de Munich face à une équipe du Bayern, maître des lieux certes, mais pas pour autant souveraine. Le but inscrit en tout cas par le Sud-Coréen en première mi-temps a suffi à cette défaite. Le PSG a buté sur un mur, celui de Manuel Neuer notamment. Mais il a aussi continué à gâcher de belles occasions pour finir la partie à 10 contre 11. Les joueurs sont-ils fautifs, Hervé Penaud?
Ah oui, il y a une part de responsabilité des joueurs, même si je mettrais quand même l'entraîneur un petit peu au-dessus.
On va en parler après.
Mmh. Oui,
mais d'abord les joueurs.
Fautifs, parce que c'est quand même eux qui sont sur le terrain. Puis il y a un moment, doivent aussi être capables, face au but, de frapper à peu près dans l'angle ou proche du gardien. Et ce qu'on a vu aussi avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est récurrent en Coupe d'Europe, on l'a vu depuis quelques semaines déjà, mais c'est qu'ils ont cette incapacité, alors qu'ils sont capables de réussir en championnat parfois dans des situations analogues, à taper le cadre, j'allais dire, et aujourd'hui, ils sont dans, je ne sais pas, il y a un manque de confiance absolument incroyable. Alors, les joueurs ont une part de responsabilité, c'est évident, parce que ce sont eux les maîtres du jeu quand ils sont sur le terrain, mais après aussi, c'est comment vous les mettez, quels sont les joueurs que vous avez choisis, etc., etc. Et tout ça, c'est du domaine de l'entraîneur et du directeur sportif.
Hervé, vous vous souvenez du dernier attaquant du Paris Saint-Germain qui a marqué un but?
Absolument, absolument. Il ne joue plus au Paris Saint-Germain, peut-être. Et on se moquait de lui. Alors ça, j'ai eu des débats. J'expliquais, mais à part 44 buts là, durant l'année, finalement, c'était 52 avec toute compétition confondue. À part ces 50 buts, il a fait quoi? Il a marqué 52.
C'était
buts.
Donc en quart de finale retour à Barcelone en avril 2024. Ça commence à
faire.
Et rappelons-le, c'est toujours 3 buts en 5 matchs. Si je posais la question, les joueurs sont-ils fautifs avant, évidemment, d'aborder l'encadrement et l'entraîneur, Nabil, c'est aussi parce que est-ce qu'on ne leur demande pas trop à ces joueurs? Ils ont peu d'expérience, ils sont jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'expérience en Ligue des Champions, finalement, et la pression énorme puisqu'il fallait gagner.
Bon, en fait, il y a une inadéquation entre le projet, entre guillemets, qu'on nous vend et les attentes et le budget du club. C'est-à-dire que si vous mettez à la place de PSG...
Plutôt le budget, parce que ce qu'on nous vend... On nous a vendu il y a longtemps, depuis 12 ans, le trophée de la Ligue des Champions.
Ils nous disent on recommence le projet.
On construit une équipe. Non, mais, c'est-à-dire que si à la place de PSG, vous mettez Leipzig, Salzbourg, voire Dortmund...
Ils sont comme eux, là, dans les choux.
Là, vous dites c'est cohérent. Bon, c'est une équipe de jeunes avec quelques cadres. Qui est dans l'apprentissage d'un logiciel et qui perd pas de beaucoup contre le Bayern. Sauf qu'on parle du Paris Saint-Germain, une équipe qui est régulièrement top 8, voire top 16 en Ligue des Champions, une équipe qui a un budget XXL. Et moi, je suis désolé, sur les CV des joueurs...
Oui, c'est 800, plus de 800 ouais, millions de budget.
Sur les CV des joueurs, c'est pas que des jeunes à fort potentiel. Vous avez quand même des joueurs chevronnés qui peuvent jouer dans les meilleurs clubs du monde. Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes...
Dembélé... Non mais c'est pas Strasbourg.
Non mais je veux dire par là qu'il y a quand même de la qualité. Il y a quand même de la qualité. Maintenant, on est sur un constat d'échec. C'est-à-dire que si à la quatrième journée,
il y a trop de pression pendant un match sur ces joueurs.
Non, ils sont habitués.
Comment rater Hervé dit, ils réussissent en Ligue 1 et ils n'y arrivent pas en Ligue des Champions.
C'est une question de qualité. Dembélé, ça n'a jamais été Robben ou Di Maria en stats ou même Mahrez ou d'autres. Barcola, on lui demande de remplacer Mbappé du jour au lendemain, mais Mbappé c'est un talent générationnel, ce qui veut pas dire que Barcola c'est pas un très bon, joueur.
Un bon joueur,
mais lui demander de porter une équipe du jour au lendemain
alors
qu'un monstre vient de partir.
Il y a des choix d'entraîneurs. Il y a quand même des choix d'entraîneurs, parce qu'à un moment on revient quand même.
On va y venir. Sur les joueurs, est-ce que finalement ils sont à plaindre, ces joueurs Euro?
Je ne sais pas, mais en tout cas, dans la débauche...
Pas financièrement.
Parce que Marquinhos, il faut l'écouter à la fin du match. Il accuse l'arbitrage.
Ça, c'est pas bon signe.
Exactement.
Parce qu'il n'y a pas vraiment de scandale d'arbitrage.
Moi, à la 35e, j'avais dit que Dembélé ne finira pas le match. Mais vous avez vu
déjà... Il a tenu encore 30 minutes,
oui,
pratiquement.
Mais il a tellement cavalé, tellement couru, que c'est normal après qu'il ne soit pas lucide devant le but. Ce football où tu dois courir partout...
Pas être lucide devant le but, c'est l'histoire de sa vie pour l'instant.
Je suis d'accord, mais encore plus hier, quoi. Mais,
sauf quand il était à Dortmund.
Sauf en Allemagne.
Voir Nuno Mendes parfois avant-centre, parfois... Mais moi, franchement, pour moi, les joueurs, ils n'y sont pour rien.
Bon. Alors vous en venez.
Oh non, le pour rien, c'est difficile quand même.
Voilà, j'allais ouvrir cette page. Allez Hervé, glissons-nous dans ce gardien Matvei Safonov, parachuté, on peut dire, dans les buts, parce que je pense qu'il n'y avait pas eu d'informations avant et les...
Il avait joué le week-end précédent.
Oui.
C'est tout ce qu'on peut dire.
Oui, mais en tout cas, en Ligue des Champions, on a cherché. Il était donc au club russe de Krasnodar. Il a joué la Ligue des Champions, mais c'était en phase de groupe uniquement avec ce club russe. Donc, il n'a pas une immense expérience non plus. Il a fait 6 arrêts, par ailleurs, pendant le match. Mais là, c'est comme nous dirait votre journal, mon cher Hervé, c'était quand même tentant, la boulette russe.
Ah oui, ça malheureusement pour lui, effectivement, il a fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Ouais. Alors là pour une fois, je ne vais pas m'en prendre tellement Enrique sur le coup, parce qu'on a tellement dézingué un peu Donnarumma, plein de gens disaient mais il faudra aussi le mettre en concurrence.
Mais certains disent qu'hier il a perdu, du coup c'est deux gardiens.
Ah oui, mais à un moment...
Parce qu'il montre qu'il fait confiance à aucun des deux.
C'est pour ça que c'est la
fragilité.
Non, mais alors à un moment aussi, ils ne sont pas en cristal. Vos joueurs de foot, c'est-à-dire que c'est des joueurs avec fort potentiel, à un moment ils ont un mental qui va avec. Quand Safonov est arrivé, je me souviens de l'interview qu'il avait donné à l'équipe, lui était là pour jouer, il dit moi je viens pour jouer, donc c'est quelqu'un qui est sûr de lui, donc à un moment on lui donne la responsabilité.
Ouais, mais déjà il avait eu quelques défaillances qui avaient été...
Chaque fois que je l'ai vu, j'ai trouvé faible, ça je vous l'avoue honnêtement, mais enfin toujours est-il que visiblement le staff parisien le trouve bon, parce que sinon il le voit à l'entraînement. Mais il n'empêche que là, on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'entraîneur. C'est-à-dire que c'est un moment où l'entraîneur a fait le choix de changer de gardien et tout le monde criait contre Donnarumma.
Il a quand même fait l'Euro, il a quand même fait des grandes compétitions.
Oui, dans ces cas-là, il ne fallait pas dire Donnarumma, il faut le mettre en concurrence. Parce que ça a quand même été le raisonnement depuis des semaines de dire mais Donnarumma n'est pas aussi bon, rappelez-vous le but qu'il prend Arsenal, c'est pratiquement le même. Donc tout le monde s'avait dit pourquoi pas l'autre. Alors effectivement, il joue, il est mauvais. Donc,
enfin, il a été mis sur le banc aussi pour des raisons, encore une fois... tactique, parce qu'en fait, jeu au pied, quoi.
Mais il n'y a pas de jeu au pied, Safonov.
Non, mais en tout cas, c'est comme ça, c'est l'explication qui a été donnée par Luis Enrique, qui en a donné une quand même. On peut à la limite le remercier et nous expliquer pourquoi il avait fait ce choix-là, parce que des fois, ils disent rien. Il dit les caractéristiques du match faisaient que c'était mieux d'avoir Safonov parce qu'on allait être pressé, etc. Et donc, il valait mieux avoir un gardien qui a un bon jeu au pied. C'est ce qu'il a dit.
Oui, parce que ça met aussi surtout en valeur, entre guillemets, sa manière d'analyser les matchs. Parce qu'en disant ça, vous dites quoi en quelque sorte? J'avais trouvé quelque chose de différent, alors qu'il est nul au pied. Hein. Il n'est pas meilleur que Donnarumma au pied, il faut arrêter. Alors, on l'a quand même vu depuis des semaines. On avait des correspondants en Russie, ils nous ont tous dit que de toute façon, au pied, ce n'était pas son point fort. Donc je trouve que de la part d'Enrique, c'est plutôt pour dire, tiens, j'ai trouvé quelque chose. Et pour ne pas enfoncer totalement la tête sous l'eau de Donnarumma et éviter de lui dire, parce qu'évidemment, vous imaginez en conférence de presse, en disant, Donnarumma, je ne le mets pas parce que je ne le trouve pas bon. C'est pas possible. Lui, qu'est-ce qu'il trouve comme idée? Il dit, mais parce que l'autre est meilleur au pied, il va mieux jouer.
Il a créé un nouveau problème. Il y avait le problème du faux neuf. Bon, peut-être qu'on en parlera. Et maintenant, il a rajouté une autre problématique qui va faire alimenter nos discussions et qui va fragiliser le groupe. Qui est le gardien numéro un?
Mais bon, pour moi, Luis Enrique, il me fait penser à un philosophe anglais qu'on appelait. Oui.
Allez-y.
Appelait John Lewis. En fait, John Lewis, il y a un philosophe français qui s'appelait Louis Althusser qui le caractérisait de cette façon. Il disait de John Lewis que c'est quelqu'un qui partait de fausses idées, qui développait de fausses idées et qui trouvait des erreurs encore plus grandes. Et pour Althusser, John Lewis tomber à l'intérieur de sa propre chute. C'est exactement ce que Luis Enrique a
fait. Et quel est cet écrivain?
Il s'appelle Louis Althusser, c'est un philosophe
français du
20e siècle. Heureusement qu'il n'avait pas Twitter, parce qu'il aurait mis un sacré sou.
Althusser. En tout cas, on a donc parlé des joueurs. Vous avez ouvert la page Luis Enrique. On a vu quand même que peut-être l'encadrement était un peu inquiet parce que la veille, ils sont allés voir le dernier entraînement dans le stade où il ne devait pas faire très chaud du côté de Munich pour assister au dernier entraînement. Déjà, c'était une image assez forte quand même. Alors écoutons-le, Luis Enrique qui, évidemment, assume tout au micro de Cédric de Oliveira.
Mon impression, c'est qu'en première période, on était quand même loin du compte. Nous n'avons pas réussi à contenir leur pressing, on n'a jamais récupéré le ballon dans la moitié adverse et on a encaissé ce but. Après le repos, on a eu des raisons d'espérer en créant du danger, mais l'exclusion nous a fait du mal. On a réussi à quand même rester dans le match, mais je pense qu'on aurait pu être plus dangereux. Je vais quand même ajouter que toutes les décisions que j'ai prises ou pas prises, c'est ma responsabilité sans aucun doute, et je l'assume totalement.
Alors il l'accepte, d'autant que les statistiques sont quand même un peu contre lui, parce que depuis qu'il est à la tête du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est 47% de défaites. Donc c'est quand même pas terrible. En tout cas, il y a eu beaucoup de choix qui interrogeaient hier soir. Alors Hervé, vous vouliez commencer tout à l'heure là-dessus et je vous ai un peu freiné. Quels sont les choix qui vous interrogez, vous?
Beaucoup de choix. De toute façon, c'est la structure, moi, de l'effectif depuis le début de saison qui me pose problème. Vous avez décidé que vous vouliez plus de stars, peut-être parce qu'Enrique veut être la star de l'équipe. Donc, il n'y a plus d'attaquants. Plus d'attaquants de pointe. Et encore, vous en avez un, parce qu'on me dit, il n'y a pas d'attaquants, mais Colomouani, il y a Ramos qui est rentré. Et Colomouani, qu'on le veuille ou non, il a quand même été attaquant dans sa vie. Là, il a joué quelques fois à ce poste-là. On peut aussi lui laisser la chance de jouer un petit peu pour le remettre en confiance.
Mais il n'a pas un bon jeu au pied, Colomouani.
Voilà, ça doit être ça. Donc vous retrouvez avec un entraîneur donc, qui refuse, par exemple. Et vous aviez Osimhen. Alors, je comprends que dans le système de jeu de Enrique, ce n'est pas un joueur qui correspond vraiment à ce qu'il veut, effectivement, parce qu'il met déjà trop de buts, il a trop de poids.
Enfin, Allende ne correspondait pas à ce que vous voulez voir.
Sur les choix d'hier soir, qu'est-ce qui vous a surpris?
Alors, déjà,
par exemple, dans la compo?
Pas d'attaquant de pointe. Ça, c'est quand même un truc assez incroyable.
Mais il le fait souvent. C'est
quand
même
mais là, on a la sensation que on avait
Dembélé en numéro 9.
Dembélé était un peu devant avec Barcola. Et parfois venait en numéro 9 tous ceux qui pouvaient se projeter. Fabian Ruiz, Nuno Mendes, etc. Donc là, vous vous retrouvez dans un système un peu particulier. Cet individuel tout-terrain qui n'était pas quand même l'apanage du jeu Enrique, normalement. Enrique, c'est plutôt un jeu de mouvement. Je ne les ai pas trouvés mauvais, attention, sur le match hier. C'est ça le pire. C'est que c'est plutôt l'accumulation. Maintenant, on va juger sur la longueur plus que sur le match lui-même.
Mais je crois qu'il a réussi, parce qu'il a dit lui-même qu'il veut que son équipe soit imprévisible. De toute façon, hier, ils ont été
imprévisible pour ses joueurs. Ça, c'est bien. Tout le monde est étonné.
Ouais. Nabil?
Non, mais moi, ce qui m'a surpris, alors déjà, forcément, on venait d'en parler, c'est quand même, quand je vois Safonov, je me dis, oui, c'est un pari. Mm-hmm. Mais c'est un pari perdu.
Mais ça rappelle,
en tout cas, ça interpelle.
Ça rappelle un autre entraîneur dont on va parler tout à l'heure, un certain Pep Guardiola, qui nous avait accoutumé aussi à faire des coups comme ça avant des grands matchs.
D'ailleurs, les joueurs de Guardiola, arrivés à un certain niveau, ils se sentaient forts il se disait, j'espère qu'il ne va pas nous faire de dinguerie.
C'est-à-dire que exactement. Il aura et d'ailleurs, fait... l'année où il gagne la Ligue des Champions, comme par hasard, il arrête d'en faire des dingueries.
Et il l'avait mis à Londres.
Et l'année où il perd contre Chelsea en finale, il avait une équipe qui avait tourné jusqu'à là. Arrive la finale,
Rodri.
Il enlève je ne sais plus qui, Rodri, il met Sterling.
Et elle enlève Rodri.
Et pour rien vous cacher, il, vous dit après, il leur dit après le match, ouais, j'ai rêvé que Sterling allait marquer.
c'est prémonitoire. Hein. Ouais. Il a fait pareil contre Lyon.
Donc il y a ça, il y a le côté imprévisible de Luis Enrique.
Non mais il va être au centre du truc. Quand Hervé disait, je vais mettre au niveau des responsabilités, je vais mettre un peu ensuite un peu au-dessus l'entraîneur. Mais t'as pas besoin de le mettre un peu au-dessus parce que lui il se met déjà au-dessus.
Bah, il est au-dessus, très au-dessus.
Il se considère déjà au-dessus. Et hier il est vexé et son orgueil en a pris un coup. C'est quoi ça déclare ? C'est quand t'es au bout du truc et puis tu sais c'est quand même, tu veux mettre du panache. Oui, c'est moi le responsable. J'assume tout.
Voilà. Et mais pour c'est... la première fois hier, il a dit que le Bayern a été supérieur à nous. Pour la première fois hier, depuis qu'il est là, il admet que l'adversaire a été supérieur. Et pour moi, le seul responsable, c'est Luis Enrique. C'est lui qui a dit qu'il a validé les choix des joueurs qui sont
arrivés. Voilà, ça c'est capital. Ça c'est capital.
Mais quand même, Safonov, 20 millions d'euros, 400 000 euros par mois pour un gardien que je connais pas.
Ça faudra Campos, quoi.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que la structure de l'équipe aujourd'hui, vous prenez que des joueurs qui viennent du championnat du Portugal, du ci, du ça. Mais dans le football de très haut niveau que vous avez vu comme hier, il faut de l'impact physique. Vous avez un milieu de terrain où il n'y a pas d'impact. Il y a Warren Zaïre-Emery, mais celui-ci, c'est un jeune joueur formé au club.
Très jeune.
Ça veut dire que tous les joueurs que vous avez pris ne sont pas des joueurs qui ont cet impact-là. Et malheureusement, le football de très haut niveau, ça demande aussi des joueurs d'impact.
Et qui ne viennent pas du très haut niveau quand même. Ils sont en formation finalement.
Bien sûr.
C'est l'ascenseur émotionnel. Moi, je
comprends. Barcola, il a 21 ans, 22 ans.
Je comprends son projet de jeu et tout, il n'y a pas de souci.
Pas moi.
Je comprends ce qu'il veut faire. Mais alors,
si vous comprenez son projet de jeu, ce qu'on ne comprend pas peut-être, c'est qu'on a l'impression qu'il n'est pas adapté à l'effectif qu'il a.
C'est-à-dire que les ingrédients ne correspondent pas, on ne sont pas à la hauteur de ce que lui espère ou croit.
Mais il veut pas d'autres ingrédients, c'est ça le problème, c'est qu'à la rigueur, parce que l'argent, on parle du Paris Saint-Germain, là on est en train de parler d'un club qui est 25 ou 26e non, mais aujourd'hui,
lui, en fait, 26e. Il veut montrer qu'il peut y arriver
non,
comme ça.
Mais c'est exactement ça,
avec
parce qu'ils peuvent y arriver sans dépenser, alors qu'ils ont un budget de 800 millions.
C'est l'un des budgets les plus importants d'Europe.
Annie, mais ils sont en train de dépenser, quand tu mets presque 50 millions sur Désiré Doué, 40 millions sur Pacho, 20 millions sur Safonov, ils sont en train de dépenser.
Dépenser plus de 100 millions sur ces trois joueurs. Doué, c'est le cas de le dire. C'est un joueur qui a du potentiel, du talent, on n'enlève pas. Mais ce n'est pas avec des joueurs comme ça que vous avez gagné la Ligue des Champions.
Yoro, est-ce que le Bayern de Munich, hier soir, a été au-dessus des débats, on va dire, et intouchable ?
Ils ont été au-dessus du PSG, mais ils n'ont pas fait un grand match. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, parce que le Bayern, depuis le début de saison, ça gagne en Bundesliga, même face à Augsbourg ce week-end.
Je crois que c'était le sixième match où ils n'encaissaient pas de but.
Oui, ils ont gagné 3-0, mais les deux pénalties ont été offerts par la défense de Augsbourg. Après, Kane marque en fin de jeu. Ils sont pas, c'est pas le grand Bayern qu'on a connu.
Non, heureusement, sinon ça faisait 5-0.
Sinon, ça fait 5-0 ou 6-0.
Ça finissait comme avec Messi et Ter Stegen, la tête baissée dans le vestiaire.
Non, parce que là, vous avez eu un joueur qui a été en grande difficulté, moi j'ai trouvé du côté du Bayern, c'est Harry Kane. Très faible, je trouvais.
Il a pas fait un bon match.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il perdait à peu près toutes les balles, il n'a jamais eu de l'influence sur le jeu. Mais je suis pas inquiet du tout pour lui. Il y en a un pour moi qui était au-dessus des débats, c'était Coman, même si à l'arrière, il a raté des buts, donc ça diminue. Mais en revanche, l'impact qu'il a eu, et heureusement pour le Paris Saint-Germain, qu'il y avait Hakimi.
Oui.
Parce que même si Hakimi a été pris de temps en temps, le fait qu'il aille aussi vite a permis de rattraper des coups et mis en difficulté parfois sur des positions de frappe Coman.
Et il reste rapide, Coman, malgré le temps qui passe. Appuis, c'est ça qui est impressionnant.
Il a des appuis de fou. Et puis surtout,
léger mais fragile.
Ouais. Et puis c'est un joueur aujourd'hui qui est expérimenté. Tu parlais tout à l'heure d'expérience.
Bah oui. 2020, Coman, on pense jamais à lui, en fait. S'en souvient.
On pense jamais à lui, mais sauf que quand on regarde son palmarès, c'est effrayant. Et je rappelle comme ça au passage, qu'il y a eu une finale de Ligue des Champions, Bayern de Paris Saint-Germain, avec un buteur au deuxième poteau qui s'appelle Coman.
Et c'est parce qu'il a jamais marché en équipe de France véritablement au niveau qu'on a pu le voir au Bayern. C'est ça.
Moi, je préfère de loin Coman à Ousmane Dembélé en équipe de France, mais bon.
Ah bah là, Ousmane Dembélé, de toute façon, sa cote, elle est en train d'en prendre un coup sérieux.
Alors, en tout cas, faut-il s'inquiéter non pas seulement pour Ousmane Dembélé, mais pour l'avenir de cette équipe, la presse étrangère. Alors, habituée depuis 10 ans à la présence de l'équipe, elle ne ménage pas beaucoup, le PSG. Alors, elle vise d'ailleurs autant le gardien que l'entraîneur. Mais le numéro 9 portugais, Gonçalo Ramos, vous y faisiez allusion, était de retour hier. Bon, il est rentré en fin de jeu, ça fait très longtemps qu'il a été absent, il avait été blessé. Écoutons-le, lui, il garde espoir. Eh bien oui, pour lui, ça serait bien que ça continue la Ligue des Champions.
On est tous très déçus, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On se concentre sur le prochain match. Nous sommes capables de nous qualifier pour le tour suivant. On ne pense pas à l'élimination. On va continuer à bosser. Ça n'est pas la fin de l'aventure européenne. Il reste 3 rencontres à disputer en 2 mois. On va tout faire pour passer.
Hervé, vous y croyez-vous à leur qualification?
Oui, j'y crois parce qu'ils vont rencontrer Salzbourg.
Voilà, ils vont à Salzbourg qui vraiment...
ils ont 0 points. Alors, ouais. Peut-être ce soir, ils vont me faire mentir. Mais...
Manchester City les reçoivent et on va en parler de City. Ils ne sont pas très flamboyants non plus. Et puis après, aller à Stuttgart. Et Stuttgart sera peut-être le plus dur.
Ah ben, Stuttgart, ça va être le match qu'il va falloir... Alors, on ne sait pas. Je dis ça, bon, on n'en sait rien. Si ça se trouve, avec 7 points,
oui.
Si imaginez vous gagnez contre Salzbourg, peut-être que 7 points suffiront. Je regardais un peu la structure, parce qu'il faudrait savoir, savoir exactement qui rencontre qui.
Parce que ça,
c'est difficile à savoir, on n'a pas de repère. Mais à 8
bon,
points...
Donc, vous y croyez?
Bah, je suis obligé d'y croire, parce que Salzbourg...
Mais
si
à travers les barrages,
parce que bien sûr.
C'est impossible désormais que ce soit direct.
Dans les 8, non. Mais déjà, battre Salzbourg, ça leur fait 7 points. 7 points, ils pourront voir sur un dernier match à Stuttgart. Vous êtes encore le Paris Saint-Germain qui dit que Kolo Muani n'aura pas quelques minutes de jeu pour marquer un but et qui dit aussi que vous ne pourrez pas acheter quelques joueurs en janvier. Alors, ils ne seront pas en Ligue des Champions. Hein. Ils seront en Ligue des Champions que ceux qui ont été inscrits en début d'année. Mais après, ils pourront revenir à partir des tours suivants.
Dans les phases ensuite.
Non, mais la qualification, grâce à ce format, évidemment, elle reste envisageable. Mmh. C'est presque plus difficile de ne pas se qualifier que de se qualifier en barrage. Oui, ils peuvent faire leur campagne pour l'instant, elle est catastrophique. Je rappelle que quand ils ont rencontré 3 vraies équipes de haut niveau, ils n'ont pas existé à Arsenal, ils se sont fait piéger par l'Atlético et ils ont été mi-figue, mi-raisin face au Bayern. Maintenant, à partir du mois de février, vous savez, le football, ça peut aller très vite. Oh, je ne dis pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais on peut voir un autre Paris Saint-Germain.
Yoro, vous aussi, possible, évidemment, vous y croyez?
Ils vont se qualifier en 8e parce que c'est simple. Une victoire et un nul, ça fait déjà 4 points. 4 plus 4, ça fait 8.
C'est comme la Côte d'Ivoire à la CAN, quoi. Tu peux perdre pas mal de fois, mais tu peux gagner la compète, quoi.
Il y a un an, ils se sont qualifiés en 8e avec 8 points.
Bon, en tout cas, on le suivra évidemment les prochaines journées, 10 et 11 décembre. Donc, c'est dans peu de temps.
De toute façon, on sera fixé à Nîmes. Contre Salzbourg.
Bien sûr.
De toute façon, là, on est un match quasi éliminatoire. Mmh. C'est un 32e de finale pour
eux. Il faudra marquer les
C'est-à-dire
buts,
tout
peut-être.
Autre résultat qu'une victoire. Là, l'élimination, elle se profilerait. Et je rappelle qu'ils ont Manchester City, dont on va parler, qui va venir forcément faire que du tourisme au Parc des Princes.
Exactement, qui seront peut-être aussi mal placés. Sans doute, les avez-vous vus hier? On les voyait très bien à l'écran, les banderoles si lisibles dans le virage sud du stade de Munich, visibles parce qu'écrites rouge sur blanc. Elles visaient le président, propriétaire aussi du Paris Saint-Germain, enfin représentant du propriétaire. Et il était écrit contre Nasser Al-Khelaifi, ministre propriétaire de club, détenteur de droits TV, membre du comité exécutif de l'UEFA et président de l'Association des clubs européens, tout en un, le foot, c'est moi. Ils accusaient ce dirigeant du Paris Saint-Germain, qatarien, d'être plutocratique. Qu'est-ce que vous en pensez d'où ça venait, ça, Yoro? Cédric de Oliveira, hier, dans l'émission, nous avait dit « Ah, j'ai rencontré des supporters et tout, et ils font partie de cette bande de clubs européens qui critiquent le Paris Saint-Germain pour être adossés à un État et donc avoir des finances infinies. »
Moi, je crois qu'ils n'ont pas tort, parce que ces différentes casquettes, franchement, il y a... Moi, je me dis, vous ne pouvez pas avoir une chaîne de télévision, gagner des droits sur le sol français, être quelqu'un d'assez puissant en Europe pour décider, faire et défaire, pour moi, ça n'est trop. Parce que j'aime pas quelqu'un qui est juge et parti. Et depuis 2-3 ans, Nasser El-Khelaifi, tout le monde mange dans sa main et c'est devenu cynique.
C'est presque devenu gênant au moment, Nabil, on en avait parlé dans Radio Foot, lorsque le trophée des champions a été attribué une nouvelle fois au Qatar. Ça sera au début janvier. Alors que la Côte d'Ivoire, qui a organisé la CAN, était super candidate.
Et avait fait la meilleure offre.
Oui, et que ça aurait pu finalement aussi rapprocher le public africain du Paris Saint-Germain, qui est un club qui grandit.
Non, mais pour répondre sur le Qatar et Nasser, Moi, j'ai le sentiment, pour le football français en tout cas, on en a parlé ces dernières années dans d'autres secteurs d'activité, oui. Notamment lors de la crise du Covid, par rapport à la pharmacie, par exemple, ou des choses comme là.
Et sur les droits télé, les droits, bien j'ai sûr, le sentiment de la transmission du championnat.
J'ai le sentiment d'une perte de souveraineté. C'est-à-dire que les décisions aujourd'hui, elles ne sont...
Du football français.
Oui, voilà, je parle du football français. Les décisions aujourd'hui, en partie, elles se prennent à Doha, quoi. À ce rythme-là, la capitale du football français, ça va être Doha. Alors, je veux bien qu'il y ait des investisseurs étrangers, je veux bien qu'on rachète un club et qu'on essaye de rayonner, etc.
Oui, mais Franck McCourt n'a voilà, pas le même poids voilà. Que Nasser Al-Khelaïfi.
Mais qu'on en arrive à être un pouvoir de décision et en étant jugé parti, et sur le cas du match, là, du trophée des champions, si la meilleure offre vient de Côte d'Ivoire, pourquoi ce n'est pas la Côte d'Ivoire ?
Exactement.
Pourquoi c'est... À moins que toi, Hervé, tu aies d'autres informations.
Disons que je ne sais pas si c'était la meilleure offre. Et du côté de la Côte d'Ivoire, elle n'était peut-être pas nécessairement soutenue par l'État, ce qui changeait beaucoup de choses. C'était des particuliers.
Oui, mais c'est toujours
ça.
Des particuliers, Hervé. Oui, moi, je suis allé en Chine, à Shenzhen. La Thaïlande qui avait fait une offre, finalement, ça n'avait pas été plus loin. Mais c'est souvent des capitaux privés
qui invitent les... Imaginez, j'aurais adoré que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais si l'État ivoirien avait poussé, peut-être que la...
Sur le pouvoir des Qatariens, parce que quand ils sont arrivés, on savait que quand ils ont acheté le Paris Saint-Germain, c'est parce qu'ils organisaient la Coupe du Monde, l'attribution venait d'avoir lieu, donc on comprenait leur démarche. Mais aujourd'hui, on a l'impression presque de voir à la télé, on se dit « Ah mais oui, quand même, Nasser Al-Khelaïfi, c'est vrai qu'il est très puissant ». Ah très discret,
Hervé, la soumission des autres présidents de clubs en France.
Pas qu'en France. Ouais. Pas qu'en France.
Non, mais en France, déjà, lors des droits TV qui attendaient qu'ils lèvent le petit doigt pour que Bein achète. Ça, c'est grave pour la France.
Le problème est simple, c'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a l'argent et donc il a le pouvoir. C'est terrible à dire, c'est horrible. C'est lui qui a le président de la LFP dans la main, en quelque sorte. Donc c'est lui qui décide. Et les autres présidents de club sont tous contents d'être là à côté de lui et d'être sur la photo. Et puis on parle un peu d'eux. Vous savez, c'est aussi un problème d'ego, toutes ces histoires-là. Et d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui est le big boss du foot français, effectivement, quand tu le dis, la capitale est. Et plus à Doha qu'à Paris.
Nos amis de SoFoot disent que c'est aussi de nombreux autres clubs français qui, ces dernières semaines, dénoncent dans des tribunes, notamment, les nombreux conflits d'intérêts qui concernent Nasser El-Khelaïfi.
Pas tant de clubs que ça, quand même. Peut-être des clubs de Lyon. Vous avez Le Havre, Lyon, évidemment. Ouais. Mais il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il y en a pas mal qui sont assez contents d'être avec
aussi. En tout cas, un petit crochet par la Bretagne, parce que l'autre club français, invaincu jusqu'à hier soir, et ça c'est quand même à noter, parce que je crois que leur budget est juste de 50 millions d'euros.
C'est l'équivalent de Lewandowski, je pense.
Et bon, alors ils ont pris une leçon catalane hier face au FC Barcelone, 3-0, c'était simple et clair. Mais Eric Roy, l'entraîneur, on va dire magicien des pirates, n'a pas vraiment pris ombrage, il ne s'était pas trop surpris. Ils entrevoient en plus les huitièmes de finale, eux. Et écoutons une petite analyse de cette prestation par le marin du Vendée Globe que vous avez déjà entendu hier, le skipper Benjamin Dutreux, qui les encourageait à distance au fin fond de l'Atlantique Sud.
J'ai essayé de regarder, mais il y avait quand même pas mal de coupures. Du coup, voilà, j'arrivais quand même à voir quelques replays et suivre un peu les événements majeurs du match. Ouais. Je trouve que le troisième, il fait un peu mal, et le pénalty aussi au début, mais moi, je trouve qu'ils se sont quand même bien battus. Les allers-retours, ils les ont fait. Il n'y a pas un moment où ils ont un peu accusé. Je pense que physiquement, ça devait pourtant être pas évident. Mais il n'y a aucun moment où ils ont baissé les bras. Et donc, voilà, moi, c'est ce que je retiens. On est plutôt le Brest de la Ligue des Champions.
Eh oui, voilà, on essaye de résister, on suit son chemin. À suivre donc cette équipe de Brest, parce que le prochain match quand même, ça sera un autre morceau, ça sera à Guingamp et ça sera face au Real Madrid. Continuons, on part au nord de l'Angleterre, là ça va moins bien, pas mieux qu'au Paris Saint-Germain.
He's not going to get there. What's going on here? This is extraordinary.
L'égalisation de David Ngo, le défenseur central international slovaque, qui est venu accompagner ses attaquants et permettre à Feyenoord de revenir à égalité 3-3.
Believe what you're seeing. It's a shame. The whistle sounds.
Manchester City menait 3-0. Ce match est complètement inversé. 3-3 maintenant.
It feels like a defeat.
It's a shame. Et oui, un nul aux allures de défaite, car c'était un sixième match consécutif sans victoire pour Manchester City. Personne n'en croit ses yeux. Les Citizens, champions d'Angleterre, champions d'Europe, il y a si peu, imposaient jusqu'à présent leur talent, leur jeu, depuis tant d'années, et ils s'écroulent un peu plus à chaque match. Hier soir donc, ils menaient 3-0 avec un doublé de leur géant norvégien Haaland, qu'on retrouvait donc auteur de but. Les Blue Sky ont ensuite encaissé 3 buts en 15 minutes, sauvés par le coup de sifflet final, hein, parce que sinon on s'est dit, ça y est, ils vont perdre. Et Pep Guardiola, leur guide depuis si longtemps, depuis 8 ans, semble lui aussi désorienté.
Je n'ai pas besoin de leur envoyer de message. Ils connaissent parfaitement la situation. C'est comme ça. C'est difficile de se faire à l'idée. C'était un bon match. Nous avons marqué 3 buts et nous aurions pu en marquer d'autres. Mais à la fin, nous avons encaissé le premier but et nous n'avons pas été assez stables. Nous n'avons pas pu gagner. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de la course des joueurs ou leur engagement, mais le fait qu'en football, on gagne à des moments précis.
Yoro, comment on comprend ce retournement de situation pour une telle équipe? On se dit 3-0, ça y est, ça va être tranquille.
Comprendre, je ne sais pas, parce que quand même, Man City ne nous a pas habitués à laisser l'adversaire revenir après un score large de 3 buts. Après, je crois que ces joueurs sont fatigués. Gagner 4 championnats d'affilée, mentalement, ils sont épuisés. Être tout le temps avec Pep Guardiola, quelqu'un qui lâche rien, qui est tout le temps dans les petits détails, machin. Ouais, mais quand tu restes 5-6 ans dans ce club, tu es essoré. Et même lui, je crois que mentalement, il est fatigué. Il aurait pu faire comme Pep Guardiola, comme l'autre Jurgen Klopp, prendre une année sabbatique, voire deux, se reposer un peu.
Et le pire, c'est qu'il a prolongé.
Oui, il vient de prolonger. Ça, on en avait beaucoup parlé dans le Café des Sports, en disant, est-ce que c'est le bon moment, finalement, parce qu'on trouvait ça étrange. Vous aviez peut-être une explication, Nabil, que vous avez tweeté, en tout cas.
Bah oui, je trouve qu'il n'a pas fait non plus que des bons choix pendant le match. Alors lui, il est connu... C'est vrai qu'il est connu pour être évidemment tactiquement très au point, très fort. En termes de management, c'est assez mitigé quand on a des retours des joueurs. Mais au niveau du coaching, il est beaucoup moins inspiré qu'un Ancelotti ou un Klopp historiquement. Alors, il faut dire qu'il y a toujours des effectifs XXL. Là, c'est un peu moins le cas. Et moi, je trouve qu'il y a... Alors, honnêtement, Annie, j'ai regardé Bayern-PSG.
Oui, c'est pour ça que j'ai regardé Bayern-PSG.
Et puis en parallèle, j'étais un peu écœuré parce que je regardais aussi la Ligue d'Afrique des Champions avec un CR Belouizdad Orlando Pirates. Bravo aux Pirates sud-africains d'avoir gagné. Et quand je suis rentré chez moi, je suis tombé sur le match et je me suis dit, non, mais il faut que je regarde la fin. Et je me suis fié justement les 30 dernières minutes pour comprendre comment ils avaient dévissé. Parce que moi qui suis Manchester City depuis X années, bon un peu moins parce qu'il n'y a plus Mahrez, mais en tout cas j'ai raté quasiment jamais un match, je ne les ai jamais vus être dans ce genre de situation. Je me suis dit, bon là je vais regarder, il faut que je comprenne quoi.
Et alors, donc
Alors, il y a de la fébrilité et ça commence par lui sur le banc déjà. Il renvoie déjà une fébrilité que j'avais jamais vue.
Quand il commence à encaisser les buts, là, on le voyait.
Et surtout, il gueule et les joueurs, ils parlent beaucoup aux joueurs. À un moment, il n'arrêtait pas de tancer Guardiola, le latéral.
Mais il l'a toujours fait.
Mais un peu plus
et
que d'habitude.
Un peu plus que d'habitude.
Et je pense que les joueurs, ils le ressentent aussi. Et c'est des éponges. Et ensuite, au milieu de terrain, c'est un peu moins bon. Et puis derrière, c'est également un peu moins bon. Alors il y a peut-être ce sentiment.
Non mais Nabil, vous avez tweeté que les changements aussi auxquels il a procédé après le 3-0 et notamment Nathan Ake.
Il a cru que c'était terminé, que c'était bon. Voilà. Et que l'équipe avait plutôt besoin de se rassurer, de consolider les choses. Et il a fait rentrer Domino, qui en plus, je les ai un peu regardés, ils étaient très timides, quoi. Ils n'ont pas renforcé la structure d'équipe, quoi.
Non, mais à 3-0...
Donc il s'est planté, tout simplement.
À 3-0, c'est pour ça que les explications, sa nervosité. Je me souviens, Salim Bungali, ici, nous avait expliqué une fois que Guardiola, il était à bord terrain. Il le regardait, c'était un Chelsea contre Manchester City. Alors, c'était dans une période magnifique pour City. À un moment, il y a Laporte qui a fait 1 mètre alors que la balle était à 40 mètres. Il l'a insulté. Ça, il a toujours été comme ça. Simplement, aujourd'hui, on le voit. On leur dit, c'est peut-être dû à ça, mais en fait, les autres, ils en ont
effectivement
depuis
4
ans. Depuis 4 ans, quant à ça, on l'a vu courir dans tous les sens.
Non, mais des mauvais changements aussi en croyant que le résultat est acquis.
Mais qui ne croirait pas que le résultat est acquis à 3-0 contre Feyenoord
à un moment.
Je comprends.
Surtout sur une équipe qui est sur une mauvaise séquence.
Mais je trouve quand même qu'à un moment, là aussi, il y a une part de responsabilité des joueurs. C'est-à-dire que quand vous menez 3-0, c'est le meilleur moment pour lancer des joueurs un peu plus jeunes, pour leur dire, voilà, je t'ai pas lancé à 1-0, je t'ai pas lancé à 2-0. Mais alors, dans ces cas-là,
les lance jamais. Les mecs jouent plus.
Oui, mais sauf qu'ils sont sur 8-0. Une mauvaise... ouais. Ils sont sur une mauvaise
non,
pointe.
Non, à 3-0 contre Feyenoord, normalement, l'affaire est réglée.
Mais ça leur
c'est, ce qui s'est passé,
ce
c'est de mener 3-0 et d'avoir mis, moi, je ne me souviens pas.
Non, mais c'est une équipe, c'est inconcevable de l'imaginer prendre des 4...
Par le Sporting,
voilà, des 4-1.
Oui,
mais 4-0 chez eux ce week-end.
Il y a un vrai problème.
Oui, alors, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ederson, hier, fait une sortie aussi à la Neuer, mais complètement...
Non, non, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont complètement à côté de leur pompe, ça c'est vrai, mais à 3-0 quand vous venez contre Feyenoord, c'est inadmissible d'être rejoint 3-3.
Après, il y a des joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont un peu en...
Ouais, enfin, il reste en
méforme, il y a encore... conférence de presse.
Il manque quand même, Rodri, manque quand même Rodri, ouais, évidemment, et certainement enfin, pour la saison. On a aussi Kevin De Bruyne qui est quand même un peu à côté de ses crampons.
Je crois
donc
que c'est fini sa carrière. Moi, je suis à sa place, il va signer en Arabie Saoudite. Il a 34 ans, bientôt 35, il est tout le temps blessé. Il fait une moitié de saison depuis 3 ans. C'est un signal, ça.
Et puis, c'est peut-être la fin d'un cycle, hein, tout ça. Simplement. Oui, c'est-à-dire que... Regarde, c'est pour ça que c'est un peu idiot de l'avoir prolongé. C'est peut-être le moment pour lui d'aller ailleurs. Il a tiré le maximum. Voilà. Il a tiré le maximum, en tout cas, sur le plan national.
On aura une réponse ce week-end. Il y aura une réponse, quand même.
Il a dit c'est griffé lui-même parce qu'il voulait se faire mal. Ouais, mais non, il
ne dormait pas. Il voulait s'arracher les cheveux, et comme il n'en a pas,
non, mais c'est dingue. Non, mais c'est dingue. Il s'est carrément arraché sur le nez. Là, j'ai vu. Sur le crâne, oui.
Une petite griffure sur le nez, Hervé.
Ah, plus qu'une petite griffure, il a légèrement gratté son nez. Je me suis dit, non, mais là, ça va mal. Alors là, en revanche, effectivement, quand vous êtes joueur, vous voyez votre entraîneur se mettre des griffures sur le visage parce qu'il n'a pas gagné, je pense que vous devez vous
dire,
mais ça
va être intéressant. Il est confronté à un défi qu'on ne l'avait pas vu récemment. Ça va être intéressant de voir comment il redresse la barre. Ça, c'est intéressant parce que.
Ah,
quand...
bien sûr.
Le pourra-t-il ouais. C'est la grande question et on se la pose après chaque match, d'ailleurs, parce que.
On ne s'attendait pas à ça, en tout cas.
On va rendre honneur au premier du classement temporaire de cette Ligue des Champions.
Parte la traiettoria, la mancano tutti, gol gol di tac-tac-tac de Vrij. E autogol di Loukeba.
1-0, c'est le score final. Ça suffit à l'Inter, un but contre son camp de Leipzig qui permet aux interistes de remporter leur quatrième match en 5 rencontres cette saison de Ligue des Champions.
Petite victoire, un seul but contre son camp donc, mais les Nerazzurri, eh bien, ils tiennent leur quatrième victoire sans encaisser de but et surtout, ils sont au premier rang à l'issue de cette première des deux soirées cinquième match de Ligue des Champions. En attendant que Liverpool joue face au Real Madrid tout à l'heure. L'Inter Milan est donc devant, goal average favorable, plus 7. Et c'est important pour l'entraîneur Simone Inzaghi.
Nous avons une très bonne différence de but par rapport aux autres et ça va compter énormément. Après, il faudra attendre la dernière journée pour faire les comptes. Avec les joueurs, nous savons qu'un but de plus ou un but de moins peut être décisif et nous permettre ou pas d'aller en phase finale.
Un poste en classifica finale.
Ça peut jouer à la différence de but, tous ces classements-là, Nabil.
Oui, 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 non, mais de toute façon...
Comme le championnat anglais, première ligue.
Ouais, là, voilà, c'est difficile de prévoir. Moi, j'attends quand même un coup de boost des grosses équipes là, sur les dernières journées, celles qui traînent un petit peu.
L'Inter Milan, vous pensez qu'ils ne resteront pas accrochés à ce premier poste?
J'en ai
c'est bah, des soirs, ça se trouve,
parce qu'ils étaient finalistes de la Ligue des Champions
non,
il y a 2 ans.
Non, mais l'Inter de Milan, ce qu'ils vont assurer, c'est surtout les 8 premières places. Allez, symboliquement, si tu termines premier d'un championnat, d'une Super Ligue européenne déguisée, bon, on va dire que c'est sympa, quoi. Mais moi, à mon avis, l'essentiel pour eux, c'est surtout d'être parmi les 8 premiers. Et pourquoi pas, lorsque ça sera assuré, si c'est assuré avant la fin de cette première phase, faire tourner sur le dernier match.
Oui. En tout cas, ça a été une soirée absolument prolifique. Il y a eu 40 buts dans les 9 matchs de la soirée. Alors évidemment, on a eu des équipes qui en ont profité. On avait prédit notamment l'Atlético Madrid qui allait à Prague. C'était le moment... c'était à Prague. Milan AC à Bratislava. Évidemment, contre des équipes où il faut faire des points et marquer des buts. Je ne sais pas quel est le résultat qui vous a impressionné, vous.
Moi, c'est la défaite du Sporting, moi. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent une valise comme ça à domicile.
Face aux Gunners.
Oui, face aux Gunners. Alors, ce qui, de manière globale, moi, je me suis posé la question en voyant ces résultats-là. On verra ce soir et on verra lors de la prochaine journée. Au début de cette phase, il y a eu beaucoup de scores un peu serrés parce que toutes les équipes sont
le
à peu près
était deuxième jusqu'à hier
à
soir.
Bloc, etc. Et puis, au bout d'un moment, Il y a le niveau qui se révèle quand même. C'est-à-dire quand vous avez des meilleurs joueurs, maintenant le championnat est bien parti, les joueurs sont tous à peu près au top forme, là vous avez des cartons qu'on n'imaginait pas. Ça faisait un peu comme à l'époque quand vous aviez le chapeau 1 ou le chapeau 4. Quoi. Mm-hmm. Et donc effectivement, on va peut-être revenir maintenant plus dans une structure une configuration d'équipes supérieures qui mettront des taux à des équipes vraiment inférieures. Et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de soucis pour Paris Saint-Germain à Salzbourg. Logiquement. Ils sont
non, mais moi je vais revenir sur le match dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui est le match qui m'a le plus interpellé, c'est quand même City Feyenoord. C'est-à-dire que City, c'est la meilleure équipe du monde quasiment avec le Real depuis X années. En un quart d'heure, si on m'avait dit qu'ils allaient se faire remonter à domicile et prendre trois buts.
Il n'y a pas de explication.
Donc pour moi, honnêtement, c'est la remontada de Feyenoord.
Euro, on a eu le Bayer quand même, Leverkusen, hein, qui s'est promené contre Salzbourg 5-0. Et on a eu l'Atalanta.
Ah oui, on en l'Atalanta, parle pas, vous avez raison, on en
À Berne, certes, c'était les Young Boys, mais 6-1, avec notamment De Ketelaere, le Belge, qui vient de Bruges, on se souvient de lui, contre le Paris Saint-Germain. Et là, passeur décisif, buteur, c'était intéressant.
J'aime aussi Retegui, qui marque but sur but,
exact.
Qui a passé un cap.
Et Patrick Schick, toujours très bon.
Ouais, il a marqué hier.
Il a marqué encore.
Il n'y avait pas Lookman hier.
Patrick Schick, c'est avec les Leverkusen, c'est pas avec l'Atalanta.
Ah non, pas l'Atalanta.
Il n'y avait pas Lookman hier avec l'Atalanta, ce qui prouve quand même la réserve et le collectif de cette
équipe. Et il n'y avait pas Boniface non plus avec Leverkusen, blessé.
Voilà. Bon, pour ce qui est de ces.
Il y avait Dembélé avec le PSG.
Et il y avait Griezmann qui a marqué
pas très longtemps, mais il était là.
Atlético de Madrid.
Et il y avait Safonov.
Non, mais je vous sens.
Qui a marqué, non ? Ah non, il a.
Et même, il y avait Luis Enrique sur le banc.
Et peut-être un coup de chapeau. En tout cas, le nôtre, à Lewandowski, qui hier est rentré dans le cercle très fermé, et il est vraiment très fermé, des buteurs qui ont marqué 100 buts en Ligue des Champions.
Il a même passé le pont de 200, mais il a marqué maintenant 101.
Oui, c'est vrai, vous avez raison.
Et
il est devancé par qui dans ce classement ?
Messi et Ronaldo, c'est ça.
Voilà.
Mais le deuxième but qu'il marque est magnifique.
Oui, parce que le premier, c'était sur pénalty.
La justesse, la finesse, le côté clinique. Leverkusen,
c'était contre Brest,
mais j'ai trouvé le match de Lewandowski largement supérieur à celui d'Harry Kane, par exemple.
Ouais, c'est vrai.
Il y avait aussi de la Ligue des Champions en Afrique. On fait un crochet par le continent africain. Cette première journée de Ligue des Champions a donc connu plusieurs matchs, puisqu'il y a quatre groupes. Et il y avait de nombreuses affiches, par exemple le TP Mazembe, quelles équipes citées encore ?
Al-Ahly
aussi. Alors justement, le stade d'Abidjan. Ça fait 40 ans qu'il n'était pas en Ligue des Champions, c'est ça, je parle sous votre contrôle, Yoro, cette équipe donc ivoirienne, et elle allait jouer contre Al-Ahly, le géant africain qui a gagné je ne sais combien de coupes, qui est d'ailleurs le tenant du titre. Hiérarchie respectée, on peut le dire, 4-2, mais c'est pas mal, non, de revenir ce résultat.
Franchement, ils n'ont pas à rougir de ce résultat. Déjà, ils étaient menés par 3-1. Après 4-1, ils sont revenus 4-2, marqué 2 buts déjà à l'Ahly au Caire, c'est pas facile pour une équipe qui n'est pas habituée à jouer cette compétition ces dernières années. C'est la SEC d'Abidjan qui est présente dans cette scène africaine.
Et qui jouera en Coupe CAF plutôt dans la soirée. Et puis, il y avait ce club Maniema Union de RDC, club congolais qualifié pour la première fois de son histoire dans cette phase de poule de Ligue des Champions de la CAF. Et l'AS Maniema, en plus, allait jouer chez le demi-finaliste de la saison dernière et vainqueur aussi en 2016, le fameux club des Mamelodi Sundowns sud-africain. Ils ont ramené un point d'Afrique du Sud. Alors écoutons leur entraîneur Papi Kimoto au micro d'Olga Massangou, notre correspondante.
Je suis très satisfait de ces résultats. On a respecté notre plan de jeu. Les jeunes gens ont été courageux aujourd'hui. Ils ont souffert ensemble. Il fallait être bien concentré du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on a fait. Hormis quelques erreurs qu'on a fait défensivement. Mais tous les plans étaient respectés. C'était vraiment presque parfait. C'est un point qu'on a pris, ça va nous servir de source de motivation pour essayer de préparer les prochains matchs contre Raja Kinshasa avec beaucoup de sérénité. Comme je l'ai dit, nous on joue sans pression, on va tout donner et voir, c'est à la fin qu'on va faire les comptes.
Yoro, Maniema, Union, pour une première, en tout cas, joli coup on va dire. C'est pas une victoire, mais les Mamelodi, chez eux.
D'autant plus qu'il y a une équipe du Congo qui s'est fait éliminer en Afrique du Sud. Je parle de l'ASV Club avec Wadou, justement, lors des préliminaires. C'est une équipe qu'on découvre. Moi, je ne la connaissais pas. Mais de toute façon, je ne suis pas surpris par leur parcours parce que ces dernières années, ces pays de l'Afrique centrale nous valent quand même quelques résultats avec l'ASV Club et il y a aussi les Corbeaux de Lubumbashi. Mm-hmm.
Évidemment, le TP Mazembe qui, hier soir, n'a arraché qu'un nul. Voilà,
en début d'après-midi, pour être plus exact, à 15h, heure locale, face au Mouloudia Club d'Alger de Patrice Baumel. Bon, c'était deux équipes qui se sont neutralisées. Peu de jeux proposés. Plutôt un bon résultat, du coup, pour les Algériens. Et à noter également, parce que je me suis fait un peu ma journée hier, la victoire dans le classico marocain, mais à l'échelle continentale, des Phares de Rabat sur le terrain du Raja Casablanca, 2-0. Et les Phares de Rabat, aujourd'hui, ils sont menés par l'ancien sélectionneur du Burkina, Hubert Velud. Donc ça, c'était quand même un match attendu. Donc des Phares de Rabat qui démarrent en fanfare.
Il faut dire aussi que le Raja va très mal. Enfin, très mal, oui. Assez mal, même en championnat. Ils sont très mal classés. Ils font un début difficile. Et pour eux, c'était un moment important, essayer de se relancer grâce à la Ligue des Champions. Et ils ont encore trébuché. Attention, c'est une équipe qui va assez mal en ce moment, le Raja. Et c'est plutôt rare quand même. Mais il va falloir vite se réveiller du côté du Raja Casablanca.
Oui, parce que 2-0, effectivement, c'est quand même un score encaissé de buts à domicile.
Surtout sur le terrain du Raja. Quoi. Après, dans les autres matchs, il y a eu aussi la victoire surprise. Enfin, un peu surprise quand même, parce que gagner en Algérie, c'est jamais simple. Même s'il y a de la qualité en Afrique du Sud, c'est pas Mamelodi Sundowns, c'est Orlando Pirates, qui a gagné du côté de Alger face au CR Belouizdad, qui va très mal.
Belouizdad, pareil. Ouais. Là, on parlait du Raja. Ouais. Belouizdad, ça va très mal. Ils ont changé d'entraîneur.
Mais bon, après, souvent, tu as le championnat, mais la Ligue des Champions, parfois, c'est une autre compétition.
Ça peut
remobiliser. Et à noter
surtout,
également.
Surtout, ils sont quand même très ambitieux. C'est un club très ambitieux. Il y a beaucoup d'argent.
Et à noter la victoire quand même, parce que c'est un joueur que j'adore. Non, de l'Espérance de Tunis contre le Djoliba.
Je sais de qui va parler.
Peut-être avec, sur toute la soirée,
je sais de qui va
tout
parler.
Continent confondu, Europe et Afrique, probablement le geste de la soirée signé Youssef Belaïli avec une talonnade à l'aveugle pour un but derrière tranquille. Quoi.
On n'est pas surpris qu'il nous parle de Belaïli.
Quel joueur, quand même, Hervé.
C'est vrai. Et encore, c'est parce que Slimani n'était pas en Ligue des Champions, mais on l'attend.
Il était hier avec le CRB.
Ah, c'est vrai.
Je ne sais même pas pourquoi le CRB a libéré Belaïli, mais c'est une
grosse perte. C'est le MCR. C'est un peu compliqué, on va rester là.
Il n'est pas simple à gérer, mais enfin, il sait faire des talonnades.
Mais en tout cas, bon, quel joueur.
À noter encore la victoire du Pyramide d'Égypte.
Ouais,
les Pyramides d'Égypte, n'est-ce pas?
Avec un double.
Entre Sagrada Esperanza.
Un but, une passe d'un jeune talent, ouais. Adel, là, qu'on a vu avec l'équipe d'Égypte au JO à Paris, qui avait été très bon. Donc un joueur à suivre du côté des Pharaons.
Mais il y a de fortes chances, on se retrouve encore avec les mêmes
exactement.
C'est la question subsidiaire.
Il y avait que l'Afrique du Nord et quelque peu des équipes sud-africaines et congolais peut-être.
Oui, voilà. On va évidemment retrouver Al Ahly, on va retrouver le TP Mazembe.
C'est le stade d'Abidjan, il ne faut pas y en espérer énormément. Alors s'ils font des coups, tant mieux pour eux, attention.
Les Mamelodi.
Mais c'est quand même une équipe de jeunes qui redécouvre une compétition compliquée à gérer. Donc avec un jeune entraîneur aussi français sur le banc, tout ça, ça demande un petit peu d'expérience quand même de très haut niveau.
Ouais, mais en tout cas, c'était la première journée. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup,
merci
messieurs.
C'est un plaisir. Oh, quel plaisir.
Et des très beaux matchs ce soir.
On va faire une émission tous les quatre ensemble.
En perspective. Demain, vous retrouvez Olivier Pron pour le bilan de cette journée, cinquième journée de Ligue des Champions. Et nous, on se retrouve vendredi. Merci à tous.